When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team, le dernier de l'année. Un FC Stream Team un peu spécial, pourquoi ? Parce que on va vous donner un peu les recettes un peu de cette émission. On avait prévu de faire une émission très tranquille, du 24 décembre, tranquillou entre nous. En fait, je voulais faire, c'est un vieux rêve que j'avais, je voulais qu'on fasse une émission un peu à la mode C'est à vous. Vous connaissez C'est à vous, cette émission sur France 5 où les gens dînent pendant qu'ils parlent. Et ben moi, je rêvais de faire ça. Et comme je voulais faire ça, on avait décidé de mettre Martin Mosnier sur la touche parce que Martin Mosnier, quand il mange salement, il en met partout. Et à l'image, parce que vous le savez, vous pouvez retrouver l'émission sur notre site, ça n'aurait pas fait très propre et pour lui, ça n'aurait pas été très sympa. Donc, j'avais invité Glenn Cellier qui devait prendre la place de Martin pour être à table tranquillou. Et en plus, on avait prévu à la fin un intermède musical avec Glenn qui joue du biniou comme personne. On aurait eu 5 minutes de biniou. Et puis voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Thomas Tuchel s'est fait saquer aujourd'hui par le Paris Saint-Germain. Donc, on va devoir rester sérieux, même un 24 décembre. C'est un peu dur. Désolé, Glenn, pour le repas et désolé pour le biniou.
Alors, je suis beaucoup plus dérangé pour le biniou parce que j'ai répété un solo depuis une semaine. Du coup, tu penses bien que je vais malheureusement finir avec quelques regrets cette émission.
Voilà, on vous promet quand même que le 24 décembre, l'année prochaine, si on est encore là, eh ben, on vous fera ce petit solo de biniou de Glenn Cellier qui aussi, il faut le savoir, mange de la galette saucisse du soir au matin.
Du soir au matin, ouais, au petit-déj. Une bonne galette saucisse pour lancer la journée, il n'y a rien de tel.
Voilà, alors la galette saucisse, ça va sûrement être dur à avaler pour Thomas Tuchel. Ouais. C'est tombé juste pendant la préparation de l'émission. Pour tout vous dire, on avait décidé de parler de lui et de sa sortie hier sur la chaîne allemande Sport 1 où il parlait du PSG dans des termes pas très, laudateurs. Donc, on pensait faire un petit sujet sur lui et on parlait de sa communication. Mais entre-temps, il s'est fait virer. Donc, on va se poser la question toute simple. Glenn, on va essayer d'y répondre, évidemment, du pourquoi, du comment le PSG a viré Tuchel. Et surtout, était-ce vraiment le bon moment ? Le 24 décembre et à ce moment-là de la saison, c'est-à-dire avant la trêve, on essaiera d'y répondre dans le premier sujet. Deuxième sujet, on va rester sur les bancs de touche, mais on va aller un peu plus à l'ouest de la France, du côté de Nantes, Glenn.
Exactement, parce qu'on va évidemment revenir sur cette information sortie hier, comme quoi Raymond Domenech prendrait la succession sur le banc du FC Nantes. Et évidemment, on va se poser la question, est-ce que c'est la pire idée de l'ère Kita ? Parce que c'est un choix qui peut surprendre pour beaucoup de raisons.
Et Dieu seul sait qu'il y a eu des mauvaises idées depuis le début de l'Arquita. Donc, c'est dire que si elle est terrible. Troisième sujet, on ira. Alors, encore plus à l'ouest, mais un peu plus au nord-ouest. On va aller en Angleterre. On va rejoindre notre correspondant, vous connaissez bien la plume d'Eurosport, Philippe Auclair. Les Anglais n'arrêtent pas pendant les fêtes. Il a le Boxing Day plus deux autres journées. Et on va lui poser la question suivante de savoir est-ce que Liverpool est déjà champion d'Angleterre ? Liverpool qui, petit à petit, prend ses aises et qui semble quand même avoir une ressource telle que la course au titre nous paraît déjà assez compliquée, on va dire, tuée dans l'œuf.
Et dernier sujet, Maxime, parce qu'on n'a pas fini pour ce dernier stream team avant Noël, on va vous faire tous les paris osés, nos paris osés pour 2021, en gros, tous les petits, où on a envie de mettre des petites pièces sur ce que ça va donner, des choix, que ce soit des choix de joueurs ou d'équipe. Tout ça, ce sera la fin de l'émission.
Alors, comme je le dis à chaque fois, quand on fait ces paris-là, n'hypothéquez pas vos maisons sur nos paris parce qu'on ne voudrait pas être responsable de vos pertes monétaires et que vous vous retrouviez dehors au mois de juin parce que vous nous aurez suivis dans ces paris-là. Donc, surtout, ne le faites pas, écoutez-nous et on peut en discuter. D'ailleurs, Glenn, on peut nous retrouver dans cette émission, on peut nous retrouver évidemment sur le site eurosport.fr. L'émission est en intégralité en podcast. Elle est aussi découpée sur les meilleurs moments, sur des vidéos, vous avez l'habitude. Et puis évidemment, vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Acast, Spotify, Deezer, etc., Apple Podcast. Vous vous abonnez parce que comme ça, vous avez accès à toutes les émissions automatiquement et vous nous mettez évidemment 5 étoiles parce que vous êtes très content, même si Glenn ne jouera pas du biniou à la fin de cette émission.
Malheureusement.
On va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Évidemment, Thomas Tuchel, on l'a appris par Bild par l'équipe puis par RMC, Bild nous a annoncé tout à l'heure que Thomas Tuchel était remercié par le Paris Saint-Germain. On est le 24 décembre, symboliquement c'est très dur, mais j'ai envie de dire, Glenn, que c'est pas qu'on l'attendait, mais j'ai quand même l'impression que c'est dans l'ordre des choses.
Alors oui, c'est dans l'ordre des choses, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'on ne l'attendait pas du tout. Pour moi, c'est un vrai séisme. En fait, en novembre dernier, je t'aurais dit oui, là je l'attendais, parce qu'on sait, Paris a eu une mauvaise passe, mais depuis, il y a eu quand même les trois matchs de Ligue des Champions où Paris s'est imposé pour aller chercher cette première place du groupe. Alors bien sûr, il y a eu la défaite contre Lyon en Ligue 1 qui a remis un peu, ressemé un peu le doute, j'allais dire. Et ensuite, mais les deux derniers matchs de Paris, notamment contre Lille et contre Strasbourg hier. Moi j'ai vu des choses qui me plaisaient, du coup oui, je suis quand même assez surpris, même si, et je pense que ça on va en parler, je pense que il y a une vraie, plus que le sportif, je pense que il y a une exaspération de la direction parisienne contre Tourelle et contre les sorties maladroites de Tourelle depuis quelques mois maintenant.
Mais Tourelle est quelqu'un de fier, c'est un entraîneur fier, on l'a vu, on en avait parlé il y a quelques semaines avec Martin ici même, on parlait, moi je disais que Tourelle était en train de prôner une politique de la terre brûlée et qui donnait l'impression que, puisqu'il n'avait pas été entendu au mercato par Leonardo et qu'il n'avait pas eu ce qu'il voulait, souvenez-vous de la passe d'armes médiatique qu'il y a eu à la fin de l'été, et bien tout simplement qu'il avait décidé de lui faire payer. Et le symbole de tout ça, c'était notamment Danilo Pereira qui se retrouvait en défense centrale. Je vais le dire assez trivialement, on avait quand même l'impression qu'il avait très envie de faire chier Leonardo, tout simplement. Voilà. On avait l'impression que ça s'était un peu tassé, mais on voyait aussi que Tourelle était désabusé. Des fois, dans ses conférences de presse, on sentait qu'il manquait de lucidité dans ce qu'il disait. On l'a vu s'énerver. Vous souvenez-vous, devant la presse, à dire après le match de Leipzig, à dire les joueurs ont tout donné. On le sentait en colère, on le sentait tout simplement exaspéré et au bord de la crise de nerfs, tout simplement. Le dernier épisode en date, c'est cette interview qu'il a donnée à Sport 1 et qui a été diffusée hier, où il explique en gros qu'au PSG, pour faire simple, je vous résume, c'est pire qu'être ministre des Sports. Il y a toutes les influences qui partent ici et là. Lui, c'est un homme de terrain. Il aime le terrain. Il n'aime pas tout ce qui est dans la coulisse. Voilà. Déjà, ça aurait suffi à lui mettre un petit taquet parce que, encore une fois, il est en train de dire de son club qu'il n'est pas organisé comme il faut, qu'il ne se plaît pas, qu'il y a des gens qui lui tirent dans les pattes parce qu'au fond, il y a ça derrière. Mais vu que ça arrive après toute cette période-là de doute avec lui et notamment le fait qu'il ne sera pas prolongé, je pense que le club s'est dit, bon, c'est la petite goutte d'eau, vous voyez, le vase était déjà plein, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors évidemment, il y a le symbole du 24 décembre qui est terrible. Leonardo connaît les 24 décembre parce qu'il y a 10 ans, jour pour jour, il avait été nommé entraîneur de l'Inter. Moi, je me souviens bien parce que tout simplement, c'est moi qui m'étais chargé de l'information. On est toujours très content à 20h, un 24 décembre, quand ça tombe. Donc voilà. Et là, ils n'ont pas hésité à couper la tête de Tourelle un 24 décembre. C'est vrai que c'est dur. Il l'a appris après le match de Strasbourg. Victoire 4-0. Alors on va dire, oui, il se fait virer après un 4-0. Oui, d'accord. Mais si.
C'est contre Strasbourg, voilà, c'est pas important quand tu es à Paris. Ouais,
exactement. C'est la Ligue 1. Et justement, c'est bien que tu dis ça parce que tu me fais la transition. Je pense qu'à partir du moment où le verre était dans le fruit, il fallait trancher. Ils le font au meilleur moment. Alors le plus dur humainement, mais sportivement, c'est le meilleur moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment la trêve. Il y a le temps pour aller chercher un nouvel entraîneur qui, selon RMC, devrait être Mauricio Pochettino. On en parlera un petit peu après. Et tout simplement, le PSG est toujours en Ligue 1. Le PSG est toujours en Ligue 1, toujours en course en Ligue 1, évidemment et heureusement, et toujours ancien. Donc au fond, c'est peut-être le moment le plus opportun pour dire stop, on repart sur une feuille blanche. Et finalement, il y a une demi-saison pour réussir une année particulière.
Alors, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que tu dis. En plus, il va avoir le temps, le prochain entraîneur, si c'est Pochettino, il aura le temps de préparer quelque chose pour la Ligue des Champions, de remettre un peu ses idées en place. Mais ça en dit beaucoup, je trouve, de l'exaspération qui transpirait en finale dans la direction parisienne à propos de Tourelle. Parce qu'il est quand même, il faut le rappeler, il était quand même à 6 mois de la fin de son contrat, là, à Tourelle. Donc, ça veut dire qu'ils acceptent de payer une indemnité pour s'en séparer. Quand on connaît les finances du club, qui sont quand même bien mises à mal par ce qui se passe avec la crise du Covid, etc., c'est pas anodin. Ça veut dire que Tourelle, le crédit de Tourelle au PSG, il était clairement dépassé, il n'y en avait plus, et que les dirigeants parisiens, pour moi, en avaient vraiment marre de toutes ces petites sorties maladroites. On le sait, c'est un caractériel. Il avait déjà montré à Mayence ou à Dortmund. Tourelle, il a du mal de temps en temps à rester dans son cadre d'entraîneur. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui ne maîtrise pas. Et finalement, je m'interroge un peu sur le long terme, sur sa capacité aussi, lui, à finalement être un entraîneur de club de cette dimension-là. Parce que évidemment, à Paris, évidemment, il y a des influences. C'est forcé. Il n'y a pas que le terrain quand on est entraîneur du PSG, mais c'est comme ça dans tous les grands clubs. Demandez à Zidane comment ça se passe. Demandez aussi en Angleterre. Évidemment, quand on entraîne des clubs de cette dimension-là, on ne peut pas se contenter d'être juste un coach de terrain, comme ça peut être le cas dans des clubs d'autres dimensions, beaucoup plus petites. Donc, je me pose vraiment des questions sur cette capacité de Tourelle à vraiment coacher un. Et pourtant, c'est un bon entraîneur, même si. Je ne sais pas ce que je retiendrai de Tourelle au PSG. Évidemment, je retiendrai cette Ligue des Champions, cette finale de Ligue des Champions. Mais sur le plan du jeu, je n'ai pas vu grand-chose d'hyper séduisant. Je trouve que les derniers mois, ça a montré juste que Paris était encore ultra dépendant de ses stars, Neymar et Mbappé, dans le jeu, même à Lisbonne, où finalement cet excellent parcours n'a tenu pas qu'un film, mais presque, n'était pas si convaincant que ça. La dépendance aussi de Verratti au milieu, quand il n'est pas là, c'était quand même compliqué. Bon, je m'interroge quand même beaucoup sur la suite pour Tourelle aussi.
Non, mais il est sûr que son échec, comme tu l'as dit, on va commencer le début, c'est le jeu. Simplement, il est arrivé pour donner une identité de jeu à cette équipe. Il venait de Dortmund, c'était très attrayant. Et il a échoué, puisque on le disait, on le répétait ces dernières semaines, le plan de jeu du PSG, c'était lequel ? C'était Neymar et Mbappé. Et la preuve par l'absurde, elle a été donnée à Lille, où le PSG, sans les deux joueurs, avec Mbappé entré à la fin, a fait un match très cohérent au niveau de la tenue du ballon, au niveau du jeu, parce que les autres joueurs se sont trouvés responsabilisés. Et l'échec de Tourelle, pour moi, c'est de ne pas avoir su responsabiliser son équipe, et parfois aussi ne pas avoir su gérer correctement les stars. On sait que c'est compliqué, on sait que gérer un type comme Neymar, c'est pas forcément la chose la plus simple, mais n'empêche que c'est à mettre évidemment à son débit.
Oui, mais ça fait partie du jeu, moi, pour un coach de cette dimension, de cette dimension-là. Si on veut coacher une équipe de cette taille-là, on est obligé de savoir gérer les égos, etc. Et ça, je trouve que visiblement, ça l'a pesé, ça l'a agacé, et ça, il n'a pas su vraiment l'exploiter. Et pourtant, dans son vestiaire, c'est quand même quelqu'un qui est assez apprécié et qui est soutenu par son vestiaire, jusqu'à présent, de ce qui ressort.
Bah oui, mais tu es souvent apprécié quand tu laisses faire tout le monde, donc c'est toujours un peu ça. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, voilà, c'est son échec, c'est de savoir gérer ces égos-là, comme tu le dis, parce que tu ne peut pas donner un blanc-seing. En fait, c'est aussi, en faisant ça, il creusait son trou aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne donnait pas d'identité de jeu au PSG, bah, il se coinçait aussi parce qu'à la fin, c'était inéluctable. Et évidemment, avec toutes les crispations, ça devenait trop difficile. Tu parlais de le virer, de lui donner des indemnités. Oui, on est d'accord, le PSG n'est pas dans une forme financière absolue. Mais à un moment, il y a ce que tu vas perdre là en lui donnant et ce que tu aurais pu perdre si la situation devenait trop toxique. Et la situation était devenue trop toxique. C'est-à-dire que si le PSG arrivait en février dans une situation complètement viciée, avec un air vicié, et se faisait sortir par le FC Barcelone, c'était pire et valait peut-être mieux claquer 7-8 millions maintenant plutôt que rater ce que la Ligue des Champions pouvait apporter après et puis remettre le PSG dans la panade. Et puis à un moment, aussi, cette toxicité, qui n'est pas seulement de son fait, il faut le dire, parce que je pense que Leonardo, ça n'a pas aidé. On est vraiment entré dans une guerre d'ego qui était mauvaise pour le club.
En fait, depuis l'arrivée de Leonardo, j'ai l'impression qu'il est fragilisé, Tourelle, et que du coup, il se sent pas à l'aise depuis 2019.
Mais pourquoi ? Parce que Leonardo, souvenez-vous qu'on boirait, voilà, il s'est fait virer aussi, évidemment, je ne parle pas de la stature, c'est pas la même
stature. C'est pas le choix de Leonardo.
Voilà, c'est ça. Et en fait, Leonardo, il a besoin d'avoir les coups des franches, et les coups des franches, ça passe aussi par l'entraîneur. Et on le disait depuis des mois, la dernière pierre qui manquait au PSG de Leonardo, c'était un entraîneur qu'il aurait choisi lui. Et en l'occurrence, Tourelle n'était pas son entraîneur. Alors, pour un peu, en plus, humainement, ça ne se passait pas forcément bien. Donc là, tout était réuni pour que ça coince. Et je voudrais revenir très vite quand même sur la vidéo. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est hier soir sa réaction sur Canal+, parce qu'un confrère lui demande, après, vous avez vu cette vidéo, vous avez dit que le PSG avait des influences. Il rétro-pédale, c'est terrible parce qu'il est en train de dire non, mais c'était une blague, non, j'ai pas dit ça, c'est du off. Et alors, soit il se rend compte qu'il est allé trop loin dans sa com et qu'il se dit là, je me mets à la faute, soit il n'assume pas, mais il y avait quelque chose de bizarre, comme s'il avait senti un peu le coup venir, qu'il s'était dit ah là, cette fois, je suis peut-être allé trop loin et le couperet pourrait tomber. Voilà.
Je pense que ça a été aussi un peu mal, enfin pas mal interprété. Moi, je comprends ce qu'il veut dire en fait quand il dit que ce qui l'intéresse c'est le football et que j'entends complètement ça. Quand on est entraîneur, je peux comprendre qu'on ait envie d'être un vrai technicien. Et Tourelle, c'est un vrai technicien et que malheureusement, il doit aussi savoir gérer la com et que finalement, ça fait partie du métier. Mais que il y en a beaucoup d'entraîneurs qui disent que c'est pas forcément pour ça qu'ils se sont lancés là-dedans.
Mais tu sais, Glenn, il y a le fond et la forme. C'est-à-dire que si demain un entraîneur, si Galtier demain dit ça. dans la situation où il est, dans la situation qui est favorable, on lui dira bah oui, oui. Le problème, bien c'est sûr. Que quand tu dis ça dans une situation telle où toi, tu as aussi participé à cette guerre des coulisses, bah, forcément, c'est moins bien pris parce que là, tu es juste en train de dire que le club ne marche pas derrière toi. Parce que ce qu'il faut dire aussi, je pense que Tourelle, alors je ne pense pas qu'il ait réussi, mais je pense que à partir du mois de septembre, c'est-à-dire quand il voit que ça commence à sentir mauvais, qu'il n'est pas reconnu pour cette finale de Ligue des Champions, que le mercato ne suit pas, je pense que Tourelle, il sait qu'il ne va pas être prolongé déjà et il prépare aussi la suite. Et il faisait un peu sa pub en disant « Ok les gars, si on se plante, ce ne sera pas complètement de ma faute. Moi, je reste un bon entraîneur. Voilà. » Je pense malheureusement qu'il a un peu perdu de crédit sur ces derniers mois parce qu'il est trop tombé dans cette guerre d'ego et on l'a vu sous un mauvais jour. Mais je pense qu'il y avait ça dans sa tête. Et finalement, tout était vicié, tout était toxique au PSG. Pour moi, c'était vraiment… C'est pas si... Je ne sais pas si c'était la décision qui s'imposait, mais je pense que le PSG n'a pas eu tort de la prendre maintenant.
Je te rejoins totalement sur la prise de décision maintenant. Si Paris considérait que c'était plus viable, c'est bien de le faire là parce que c'est ce qu'on a dit il y a du temps derrière. Après, c'est ce que tu dis. En fait, pour moi, le tournant, ça a vraiment été cette prise de position sur le mercato vis-à-vis de Leonardo. En fait, à la fin du mercato, où il disait qu'il se sentait peut-être pas armé par rapport à l'année dernière. Et à partir de ce moment-là, on a senti qu'il… il se lâchait un peu plus, il y allait un peu plus, il est de plus en plus loin peut-être. Et au bout d'un moment, il a été trop loin. Après, là où je te rejoins pas trop, c'est notamment quand tu dis qu'il a perdu du crédit. Oui, il a perdu du crédit parce que sur la communication, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que moi, je m'interroge sur sa capacité à gérer ce genre de club. Mais finalement, en Ligue des Champions aussi, les trois derniers matchs du PSG, notamment celui à Manchester, on le sait, en Angleterre, il a marqué des points. On le voit beaucoup de plus en plus évoqué pour certains postes, notamment à Manchester d'ailleurs, dans la presse anglaise, parce que ses choix ont été payants sur le terrain. Et ça aussi, ça compte.
Mais je pense qu'on a fait le tour sur Thomas Tuchel, qui devrait donc a priori être remplacé par Mauricio Pochettino. On reviendra sur lui bien évidemment, mais on va tout de suite retour. Passer oui, un retour en France, un retour au PSG. Et très curieux de le voir d'ailleurs dans ce club-là, parce que Tottenham, un club très structuré anglais, je ne vais pas dire de moyenne facture, mais du top 6, là, il va passer quand même un peu le niveau dessus avec les exigences qui s'accompagnent. Et notamment, peut-être, s'il est là, si c'est lui, il aura ce 8e de finale à Barcelone, lui qui était à l'Espagnol, donc ça va être très, très particulier aussi. Un autre pour qui ça va être sans doute très particulier, c'est un entraîneur qui, lui, est resté 10 ans sans poste, un entraîneur qu'on n'imaginait pas revenir, parce qu'en plus, quand il y avait d'autres entraîneurs qui étaient nommés, notamment Ranieri, à un âge, on va dire, canonique, il était plutôt contre parce qu'il disait « c'est trop vieux », c'est Raymond Domenech, qui devrait prendre les rênes du FC Nantes. Alors moi, je vais vous le dire, vu de loin et comme de près, Raymond Domenech au FC Nantes, ça paraît complètement dingo. Il y a le journaliste qui parle, qui est plutôt content de revoir Domenech parce que, pour être tout à fait honnête, on ne s'ennuie pas avec lui. Mais il y a le fan de foot qui se demande bien dans quelle galère il se met et surtout dans quelle galère se met le FC Nantes. Le FC Nantes qui a perdu beaucoup depuis l'arrivée de Kita. Ça avait commencé un peu avant, mais on va se poser la question suivante, c'est très simple. Domenech à Nantes, est-ce la pire idée de l'ère Kita, Glenn?
Moi, je trouve que ça y ressemble, forcément. C'est ce que tu dis, en fait. C'est que si j'étais supporter du FC Nantes, je me ferais beaucoup de soucis à l'heure actuelle parce que je ne sais pas du tout ce que Domenech peut apporter à cette équipe. Je ne sais pas où il en est. Je pense qu'il est, c'est bête à dire, mais un peu d'un autre temps, j'allais dire, parce que le foot évolue depuis quelques années. La manière de gérer les joueurs évolue. Pour moi, ça reste, et notamment pour les jeunes, ça reste aussi le manager de Tnaïssa, malheureusement, de la Coupe du Monde 2010 et de ce fiasco. Ça va être quand même compliqué à faire un peu oublier pour réussir à imposer son management. Donc je m'interroge beaucoup. Après, c'est ce que tu dis. En revanche, en tant que journaliste, c'est passionnant. C'est agréable d'avoir dans la Ligue 1 un personnage de ce type. On se dit qu'on ne va pas s'ennuyer pendant les conférences de presse, qu'il y aura énormément de choses à dire, que ce soit sur ses choix sur le banc et sur sa communication. Pour ça, c'est une belle idée de la part de Kita en tant que journaliste. Mais c'est vrai que franchement, à la place des supporters nantais, j'aurais quelques motifs d'inquiétude.
J'ai eu la chance, alors certains parleraient d'Even, mais moi de suivre beaucoup les Bleus à l'époque de Domenech, l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010, et d'avoir vu à l'œuvre Raymond Domenech. Ça fait 10 ans. La dernière fois qu'on a vu Raymond Domenech sur un banc, c'était à Bloemfontein, c'était le match Afrique du Sud-France. Vous vous souvenez, la défaite, le fiasco terminé. Et cette image avec Carlos Alberto Parreira, sélectionneur de l'Afrique du Sud, à qui il ne veut pas serrer la main. Et bien ça, cette image, pour moi, elle est à l'encontre totale de ce que doit être et ce qu'a été le FC Nantes, c'est-à-dire un club qui a des valeurs et qui les a perdues au fil des années parce qu'il y a eu des atermoiements. Pendant des années, pendant des décennies, c'était Arribas, c'était Ciudo, c'était Denouex. Et puis à un moment, le club a perdu cette âme-là. Alors peut-être que c'est aussi lié au football moderne qui fait qu'avoir un centre de formation performant, aller plus loin avec ces jeunes, c'est compliqué. Mais n'empêche qu'on peut être triste de tout ça. Et la question que je me pose aussi autour de Raymond Domenech, c'est que, on l'a dit, ça fait 10 ans qu'il n'a pas entraîné. Les deux dernières années de son mandat en équipe de France. Exactement. Et oui, et puis ça fait 27 ans qu'il n'a pas entraîné de club puisque c'était Lyon. Les deux dernières années de son mandat en équipe de France, qui vont de l'Euro 2008 à la Coupe du Monde 2010, sont deux ans où il perd complètement la main sur ses joueurs. C'est-à-dire que il n'a plus le pouvoir. Les joueurs se confrontent à lui très clairement. Alors évidemment, ce sont des internationaux. C'est William Gallas. Ce sera aussi toute la nuée d'internationaux qui, pour une partie d'entre eux, avaient joué la finale de la Coupe du Monde 2006 et qui avaient un certain poids. Mais il n'empêche, l'image qui reste de Domenech, aussi bien chez les jeunes et surtout chez les jeunes aussi aujourd'hui qui n'ont vu que ça, c'est la Coupe du Monde 2010. Moi, je me demande tout simplement si le discours de Domenech dans le vestiaire du FC Nantes avec des joueurs de 25 ans, comment va-t-il passer tout simplement ce discours-là ? Parce que, encore une fois, ces joueurs sont marqués par la fin de Raymond Domenech. Et c'est peut-être injuste, encore une fois, parce qu'on oublie que Raymond Domenech a fait une finale de Coupe du Monde et que ce n'est pas n'importe qui arrive là. Mais l'image qu'on retient de lui maintenant, c'est ça. La question, c'est de se dire, est-ce qu'en 10 ans, il a changé ? J'ai la faiblesse de penser, peut-être un petit peu, mais dans le fond, je pense que Raymond Domenech reste ce qu'il a été. Raymond Domenech est un pragmatique au niveau du jeu, doublé d'un cynique. Pragmatique et cynique. Avec le FC Nantes, pour moi, ça ne fait pas toujours bon ménage. Et surtout, on arrive à des situations qui sont très compliquées à gérer dans ce cas-là. J'ai bien peur que le FC Nantes ait fait une erreur. Et c'est très dommageable parce que le FC Nantes n'est vraiment pas en position de force alors que se termine cette année 2020.
Je suis totalement d'accord avec toi. Mais en fait, ce qui est compliqué avec le FC Nantes, c'est qu'on a l'impression que depuis des années, il n'y a pas de ligne directrice. Il y a eu un nombre de coachs depuis l'arrivée de Kita qui sont les légions. Mais entre Gourcuff, Ali Doji, Ranieri, Sergio Contessao, René Girard, c'est des profils d'entraîneurs, rien que les derniers, qui ne prônent pas du tout la même philosophie, qui n'ont pas la même manière de gérer leur équipe. J'ai un peu l'impression que c'est au petit bonheur la chance et qu'on prend qui vient sans avoir une vraie volonté d'imposer quelque chose. C'est peut-être ce qui est dommage à Nantes, qui avait une vraie école, une vraie école de jeu il y a des années, évidemment, dans les années 90. Et on est très loin de ça maintenant.
Ouais, et puis l'année 2020, finalement, Glenn, elle résume parfaitement ce qui est devenu le FC Nantes. C'est-à-dire qu'on passe de Gourcuff à Domenech.
Ouais.
Sans jugement de valeur, encore une fois, je ne suis pas pour dénigrer Domenech sur son niveau d'entraîneur, mais on passe quand même de deux philosophies qui sont complètement opposées. Et si je ne m'abuse, alors je peux me tromper, mais il me semble avoir lu il y a très peu de temps dans la presse que Gourcuff quittait le FC Nantes en très bons termes et qu'il donnerait son avis sur le prochain entraîneur, ou du moins s'il était consulté. Je serais quand même hyper étonné que Christian Gourcuff. Je serais curieux de savoir ce que Christian Gourcuff a dit à Valdemar Kita. Voilà. Donc encore une fois, moi je suis inquiet pour Nantes parce que pour toutes les raisons déjà sportives, tout simplement parce que c'est un club en déliquescence qui est en rupture totale avec ses supporters, avec une direction qui navigue à vue. Je le répète parce qu'il y a cette année 2020 qui passe encore une fois de Gourcuff à Domenech et puis d'aller chercher Domenech. Alors Domenech, c'était pas une première. On avait déjà entendu parler de son
nom. C'est pas la première fois.
Ça. Et ça correspond finalement bien à Kita, c'est-à-dire que Valdemar Kita aime bien les coups. Mais aujourd'hui, je pense que le FC Nantes n'a pas besoin de coups. Il a besoin d'une ligne directrice. Est-ce que ce sera Domenech ? Je le souhaite, ce serait une surprise absolue. Ça pourrait être un de nos paris osés de l'année dont on parlera en fin d'émission. Mais j'ai du mal à y croire. Et surtout, encore une fois, il y a le terrain et il y a aussi le discours. Et est-ce que Domenech va être audible aujourd'hui après 10 ans sans entraîner un métier qui a changé ? Et alors que, je le répète, les deux dernières années de son mandat en équipe de France, il ne l'était plus tout simplement. Donc, ça va être un grand mystère.
Mais tu as très bien résumé le truc, mais c'est ce que tu dis. Et c'est aussi une aventure, moi, j'avoue, qui va me fasciner et que j'ai envie de regarder. Donc, ouais, c'est peut-être le petit point positif. Mais c'est vrai que je ne sais vraiment pas où va Nantes et encore plus avec Domenech.
Lui, on sait où il va. Lui, c'est Philippe Auclair, contributeur Eurosport, plume très connue, qui vit en Angleterre depuis belle lurette. On a décidé de l'inviter pour cette dernière émission pour parler des fêtes de Noël en Angleterre. Pas des fêtes de Noël, pour savoir ce qu'ils vont manger. On n'a pas envie de savoir ce qu'il y a dans leur assiette, mais on a envie de parler football et évidemment des trois journées qui sont à venir et de se demander si le championnat d'Angleterre n'est pas déjà plié. Vous le savez, c'est leur habitude. Les Anglais ne s'arrêtent jamais et surtout pas au moment des fêtes. Le fameux Boxing Day qui, je sais que ça tient à cœur à Philippe et ça me tient à cœur à moi, c'est le 26. Le Boxing Day, c'est pas pendant 15 jours. Voilà. Donc le Boxing Day, c'est le 26. C'est quelque chose de très précis en Angleterre. On n'est pas là pour faire l'histoire et parler des jours fériés, mais n'empêche que, comme vous le savez, cette période est particulière parce qu'on a tendance à dire qu'un titre de champion d'Angleterre ne se gagne pas pendant cette période des fêtes qui est une période de surmenage absolu au niveau du football, mais il peut se perdre. Et dans le cas de Liverpool, on a quand même l'impression qu'il pourrait quand même se gagner une fois n'est pas coutume pendant cette période. Et qu'est-ce que tu en penses, Philippe ?
Écoute, quand on en parlait tous les deux avant de se retrouver avec nos spectateurs et spectatrices, je te disais non, non et oui et non. Et en fait, bon, bien évidemment, Liverpool n'est pas champion. Liverpool est champion d'automne ou d'hiver, ce qui ne signifie rien. Mais en même temps, tu te dis, quand tu vois la façon dont ils sont parvenus à arriver en tête à Noël avec les problèmes d'effectifs qu'ils ont eus, quand tu vois la marge de sécurité qu'ils ont sur la plupart des équipes de Première Ligue, quand tu vois la façon dont ils ont joué dont leur, contre leurs rivaux directs, quand tu penses qu'il y a des joueurs qui vont revenir, tu te dis, et au niveau de la qualité du spectacle proposé, tu te dis qu'en effet, ce titre-là, il va falloir vraiment aller le chercher si on s'appelle Manchester City ou Tottenham ou Chelsea, voire même Manchester United. Et tu vois, même le fait que je mentionne Manchester United, c'est purement à cause de l'arithmétique et du classement actuel, parce qu'il y a un gouffre tel entre les deux équipes quand tu les vois jouer que, bon, non, tu as l'impression franchement que Liverpool est au-dessus du lot. Ça ne se traduit pas curieusement encore totalement au niveau de la cote chez les bookmakers. En sens, il y a quand même encore beaucoup de gens qui pensent… Oui, c'est marrant, hein, parce qu'il y a encore, je pense, beaucoup de gens qui se disent « Manchester City est capable de revenir, ils ont un match en retard, ils ont une marge de progression eux aussi, ils ont des joueurs qui reviennent, etc. etc. » Et je crois que les gens ont du mal à accepter le fait que le Manchester City de Pep Guardiola ne soit pas au niveau, par exemple, de la saison précédente ou des deux saisons, surtout des deux saisons précédentes. Donc, si tu veux, donc ma réponse, ouais, c'est il va vraiment falloir les chercher. Et tu as l'impression qu'ils disposent d'une marge de sécurité cette année qui n'était pas la leur lorsqu'ils ont enfin conquis le titre la saison dernière.
Alors, si on fait un constat, on va dire, purement arithmétique, c'est pour l'instant 4 points d'avance sur le dauphin qui est Leicester. Manchester City, surtout, est à 8 points avec un match en plus à jouer. Mais tout de même, 8 points, ça fait beaucoup. Ouais. Même ne serait-ce que 5 pour les combler au rythme où va la Première Ligue, même si, comme tu l'as dit, Liverpool n'a pas avancé au rythme effréné qui était le sien, notamment l'année dernière ou l'année précédente. Ça reste quand même difficile, surtout que quand on se penche sur le menu de fête de Liverpool, ça n'a pas l'air complètement impossible, insurmontable, parce qu'ils vont jouer contre WBA, Newcastle et Southampton. Donc, a priori, les deux premiers, ça le fait, entre guillemets, ça devrait le faire. Ça devrait puis Southampton, faire. On va dire, en dessert, qui sera le gros match, entre guillemets, de Liverpool.
Oui, le Southampton qui peut faire un coup, ce ne serait pas la première fois, c'est une équipe difficile à bouger. Et tu te dis que bon, ça n'est pas impossible, on a vu des résultats tellement bizarres. Notamment, on se souvient de la déculottée de Liverpool contre Aston Villa. Mais ça aussi, on s'était rendu compte qu'Aston Villa n'était pas une mauvaise équipe et que bon, c'était un de ces jours sans qu'une équipe peut avoir une fois tous les deux ans ou tous les trois ans. Et ça ne se reproduira pas contre West Brom ou Newcastle, qui sont franchement des équipes. Bon, ils perdront peut-être 2 points dans un match nul invraisemblable en ayant tiré 50 fois au but, etc. Mais ça n'en prend pas le chemin parce que ce qui est franchement étonnant, et c'était une chose qu'on avait déjà vue la saison passée, les deux saisons passées, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe qui devrait empêcher Liverpool de tourner, c'est-à-dire que tu as un joueur majeur qui manque, que tu as une suspension, une blessure, tout de suite, tu as une solution de remplacement. Ils trouvent toujours un moyen. C'est incroyable. C'est comme le but de Firmino contre Tottenham, tu vois, dans les arrêts de jeu. Il y a quelque chose qui te dit, ils y croient tellement eux-mêmes, qui vont finir par le faire. L'année dernière, c'est le match qu'il manque de perdre d'un rien contre Manchester United. Qu'est-ce qui égalise ? C'est Adam Lallana. Adam Lallana, c'est quand même hallucinant. Et là, tu te dis, ils perdent Van Dijk au début de la saison. Et tu te dis, c'est une catastrophe. Non seulement ils perdent Van Dijk, mais ils perdent Joe Gomez derrière. Ils ont vendu Dejan Lovren. Donc, ils se retrouvent avec Matip. Bon, lorsqu'il joue sur deux jambes, qui est un joueur magnifique, mais la plupart du temps, il claudique. Il va falloir mettre Fabinho là. Et puis, tout d'un coup, tu te rends compte que ah ben, le petit Williams, quand il joue, il est pas mal. Et il y a toujours un moyen de mettre les choses en place de telle façon que ça se passe correctement. Et tu vois, moi, c'est un truc, franchement, qui me frappait pour Van Dijk. Je me disais, l'un des plus gros problèmes que va avoir Liverpool, ça ne va pas être un niveau défensif, ça va être un niveau offensif. Parce que Van Dijk est une espèce de quarterback. C'est-à-dire que c'est un arrière central qui est à la Beckenbauer, capable de monter ballon au pied et distiller des transversales de 40-50 mètres pour les flèches qui sont sur les côtés, pour Robertson, pour Mané, pour Salah et pour Alexander-Arnold. Et là, tu te dis, sans lui, comment est-ce qu'ils vont faire ? Il va falloir qu'ils raccourcissent le jeu. Et moi, je m'étais dit, c'est pas trop un problème parce qu'ils vont le faire avec Thiago Alcantara. Mmh, ouais. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Thiago Alcantara est blessé. Et tu te dis, non, c'est foutu. Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe ? Curtis Jones arrive. Et Curtis Jones, tout d'un coup, a la gueule d'un titulaire. Et tu te dis, ah bah le fait que Wijnaldum soit dans les 6 derniers mois sans contrat, c'est peut-être pas un problème. Chaque fois, tu as l'impression que la solution est en place avant.
Et justement, j'allais te parler de Curtis Jones, et c'est exactement l'illustration de ça, c'est-à-dire que la solution infinie, j'ai l'impression que je découvre un joueur de Liverpool, j'exagère, toutes les semaines en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours un type qui est là pour suppléer l'autre et pour aider, et justement, ce qui rend à Liverpool, ce qui donne l'impression d'une richesse absolue, et justement, Curtis Jones, c'est le dernier d'entre eux à donner cette impression-là.
En attendant, Nico Williams et Rhys Williams, qui n'ont pas été ridicules du tout, et puis tu as Alex Oxlade-Chamberlain qui vient de revenir dans le groupe également. Tu te dis, mon Dieu, puis il y en a d'autres qui vont revenir également. Naby Keita va revenir. Il y a bien un jour, on va voir le vrai Naby Keita. Devant, ils ont maintenant 4 joueurs pour 3 places. Et puis, en plus de ça, ça suffit même pas, puisque l'autre jour, ils jouent avec Minamino, qui trouve le moyen de marquer son premier, d'ouvrir la marque. Tu te dis, un joli but en plus. Et tu te dis, il y a toujours une solution. Et tu regardes les autres. Et tu te dis que si jamais, lorsque par exemple, si Kevin De Bruyne n'est pas là, ce n'est pas le même Manchester City. Si Ederson n'est pas là, qui n'a fait pas pourtant une saison fantastique, ce n'est pas tout à fait le même Manchester City. Et on peut continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs clés dans les autres effectifs. À Chelsea, il y en a d'autres. Par exemple, il vaudrait mieux que Edouard Mendy ne se blesse pas, qu'on ne retrouve pas Kepa dans le but. N'Golo Kanté en est un autre, et on pourrait continuer comme ça. Il y a des joueurs qui ont beaucoup d'influence. Tu n'as pas la sensation d'avoir le même, et bien évidemment Tottenham, si jamais Son ou Kane ont un problème, ça devient, s'ils ont un problème, c'est Tottenham qui a un problème. Et Liverpool, c'est différent. Liverpool, ils ont cette marge de manœuvre, cette marge de sécurité, avec en plus ce mental de fer qu'ils ont forgé en Europe il y a 2 saisons, en Angleterre il y a 1 saison, où tu te dis que de toute façon, quelle que soit la situation, même si c'est parfois un peu tiré par les tifs, ils vont trouver une solution.
Ouais. Moi, j'ai toujours tendance à dire que quand c'est tiré par les tifs, toujours, et que ça bascule toujours du même côté, c'est que c'est plus un hasard.
Non, voilà, absolument.
Et Liverpool en est la meilleure illustration. Donc, on t'a compris, a priori, pour toi, Liverpool, c'est bon. Alors, je vais te poser la question piège.
C'était mon choix en début de saison. Hein. Ouais.
Qui sera second ?
Ah, alors là, waouh, ça c'est vraiment la question piège. Normalement, ça devrait être Manchester City, mais il y a quelque chose qui ne me convainc pas dans cette équipe, cette saison. Il y a des moments où ça produit beaucoup de jeux et beaucoup trop de moments où ça n'en produit pas. Et moi, ce qui me frappe, c'est la façon dont Manchester City se repose de plus en plus sur des exploits individuels pour gagner ses matchs. Marque pas assez de buts. Le nombre de... En fait, c'est juste un petit peu plus d'un but par rencontre, ce qui est pour Manchester City rien du tout. Ouais. Ils s'en tirent lorsque tu as tout d'un coup Raheem Sterling qui fait un dribble fou sur l'aile gauche, lorsque tu as Kevin De Bruyne qui fait une passe décisive complètement délirante, Gabriel Jesus qui marque le plus beau but de sa carrière, etc. Riyad Mahrez qui... On ne va pas parler du match contre Arsenal en Coupe de la Ligue, mais qui tombe sur des gars, tombe sur un gardien plutôt compréhensif. Non, mais Riyad Mahrez qui est tout simplement brillantissime. Mais tu as l'impression qu'avant, c'était le jeu de Manchester City qui faisait qu'il se créait 10, 20, 30 occasions franches en expected goals, si c'était vraiment au top du top. Ce n'est plus le cas. En expected goals, ça, c'est Leeds United qui est en tête en championnat d'Angleterre. Et j'ai l'impression que le jeu a ralenti, le jeu est plus posé, ça prend moins de risques dans l'entrejeu, ça manque d'imagination. Et je pense que tout simplement, c'est que tu vois l'impact du départ de David Silva. Hein. Je suis désolé, mais ça, on en avait parlé, je pense, avant son départ, mais il laisse un trou énorme et le fait qu'Aguero ne soit pas là tous les matchs. Donc, si tu veux, c'est pour ça, tu vois, je te donne une très longue réponse pour une question très simple. C'est parce que je n'ai pas vraiment de réponse à ta question. Et que dans l'état actuel des choses, si jamais il n'y a pas trop de blessures, je verrais bien Tottenham faire un coup. Parce qu'eux me paraissent très, très costauds. Très, très, très costauds. D'un côté du terrain à l'autre, c'est une équipe qui fonctionne du feu de Dieu. Chelsea, ça va continuer de faire des hauts et des bas. Manchester United, pareil. Manchester City ne me convainc pas totalement, donc je te dis Tottenham. En deuxième place, mais en deuxième place à 8 ou 9 points.
Oui, a priori. Et le calendrier ne dit pas tout, évidemment, mais le menu de City, c'est Newcastle, Everton et Chelsea pendant les fêtes. Donc, c'est un peu plus compliqué que Liverpool. Et oui, ça va être
Everton, ça
vraiment
sera
une période charnière, on dit.
Ouais. Absolument. Comme tu le disais, un championnat ne se gagne pas nécessairement à Noël et pendant les fêtes de fin d'année, mais il peut très largement se perdre. En fait, des équipes qui menaient à Noël et qui ont perdu le titre.
Il y a Newcastle,
il y a Aston Villa, ça fait un bout de temps, le Villa de York et Cole. Ouais. Mais en fait, si tu regardes depuis le début des années 2000, je crois qu'il y a un seul club qui a fait ça. Cela dit, c'était Liverpool à 3 reprises. Oui, mais pas l'année dernière, mais c'est fini, voilà. Liverpool. C'est une autre histoire.
Merci Philippe, je te souhaite d'excellentes fêtes qui seront, j'imagine, studieuses avec toute cette première
année. Oui, très studieuses, absolument.
Et on se dit à l'année prochaine.
Meilleurs voeux à tous.
Merci.
Ciao, ciao.
On passe au dernier sujet de cette émission et on va vous faire notre petite spécialité de Noël. On adore faire ça. On va vous parler de nos paris osés pour 2021. On en a choisi 3 chacun. Le premier, il est pour toi, Glenn. Et il me semble qu'il nous ramène en France, du côté du Paris Saint-Germain, si je ne m'abuse.
Exactement, parce que pour moi, c'est un peu osé, mais je pense que Neymar sera ballon d'or cette année. C'est mon pari. Je mettrai bien une petite pièce dessus, je m'explique tout simplement. Je pense que, vu ce que j'ai vu de Neymar en Ligue des Champions cette année, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, notamment lors des 3 derniers matchs du PSG. Je pense qu'il est lancé, je pense qu'il est bien à Paris. Alors bien sûr, Paris va changer d'entraîneur, mais je ne vois pas pourquoi ça changerait pour Neymar. Il va cartonner, Paris va aller très loin en Ligue des Champions. Lui, il va briller en Copa América. Il va falloir qu'il brille parce qu'il y a l'Euro, mais je pense qu'avec le Brésil, c'est pareil, il va briller et je suis persuadé qu'il a tout pour être ballon d'or l'année prochaine, enfin pour lui.
Donc, tu es en train de me dire que le Paris Saint-Germain
va aller très loin en Ligue des Champions, on sera même champion en effet, parce que changement d'entraîneur et tout, ouais, je le vois bien comme ça. Petit changement de coach, ça va leur faire du bien. Et...
On est le 24 décembre, ça reste gratuit.
Attends, même juste tout ce qui s'est passé ces derniers temps entre le Covid, les histoires avec Tourelle, cet enchaînement de matchs avec le final de la Ligue des Champions, puis cette C1 un peu atypique. Pour reprendre là, Paris a répondu présent, ils sont premiers en Ligue des Champions grâce à Neymar, je le dis, parce que c'était son équipe et ça s'est vu lors des derniers mois en Ligue des Champions. Et là, sa blessure, ok, finalement, il n'est pas blessé tant que ça. Il va vite revenir en janvier. Il va être au taquet pour la Ligue des Champions. C'est pour lui cette année, mon cher Maxime.
Donc là, déjà, je peux dire qu'il y a un de nous deux qui aura forcément tort dans son pronostic. Et peut-être même les deux, ce qui est possible aussi.
Oui, forte chance.
Et ben moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens bien. Alors, aujourd'hui, ça me paraît un peu bizarre de dire ça parce qu'on peut avoir l'impression qu'elle n'est pas forcément à fond et qu'elle n'est pas forcément… un vrai, vrai prétendant, même si pour moi, elle est assez naturellement prétendante. C'est la Juventus. Je pense que la Juventus va gagner la Ligue des Champions l'an prochain. La Juventus, qui est la grande maudite des Ligues des Champions, qui perd toutes ses finales, sauf évidemment deux, en 85 et 96. Et la Juventus qui attend depuis belle lurette de gagner. C'est une Juventus qui a un peu de mal sous Pirlo. Ça vient de commencer, ça se traîne un peu, c'est pas encore ça. Mais Pirlo est pour l'instant plutôt épargné. Moi, je vois quand même bien la Juve gagner la Ligue des Champions. Elle doit passer l'obstacle Porto en huitième de finale. Ce n'est pas inaccessible, évidemment. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je pense qu'il y a un joueur qui, dans ses rangs qui, évidemment, arrive à la fin. Et je vais doubler mon pari pour faire un doublé et mettre encore plus d'argent. Et peut-être en perdre encore plus. C'est Ronaldo que je vois, par essence, bien gagner un sixième Ballon d'Or. Je verrais bien ce doublé-là, moi, en 2021. Ballon d'Or pour Ronaldo et la Juve qui gagne la Ligue des Champions. Ouais. Mais Ronaldo qui ne gagne pas l'Euro, en revanche.
Eh non, et tu t'emballes beaucoup, j'ai l'impression. Parce que déjà, c'est ce que tu dis, je ne vois pas Ronaldo gagner l'Euro, même si Portugal a plutôt une belle équipe. Mais ouais. Non, la Juve en Ligue des Champions, Maxime, tu t'emballes totalement. Là. Vu ce qu'il montre en ce moment, Pirlo sera peut-être très bien l'année prochaine, mais je pense que là, il part de trop loin, vu ce que je vois, notamment en Serie A. J'y crois pas du tout, là. Mais bon, pourquoi pas, hein.
Tu verras bien. Alors, en parlant d'emballement, d'emballage, tout ce que tu veux, toi, c'est pas mal pour le troisième.
Tu es prêt pour les cadeaux, j'ai l'impression.
Ah ouais, c'est exactement ça.
Ouais, le suivant pour moi, c'est Lyon. Lyon qui sera pour moi champion de France parce que je sais pas, c'est un peu comme. J'aime beaucoup ce que je vois de Lyon en Ligue 1. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe et ça se sent. Ils sont vraiment. Il y a un vrai collectif qui est né de ça. Devant, il y a un trio que j'apprécie énormément de ce qui monte au milieu de terrain, que ce soit Paqueta. Franchement, ils ont chopé une très très bonne pioche. Je vois pas ce qui cloche en ce moment à Lyon. Je pense que Depay va rester et n'ira pas au Barça parce que je vois pas le Barça aller lâcher de l'argent à l'heure actuelle au mercato pour s'offrir Depay. Je serais très surpris. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que c'est une voie royale. Bien sûr, il y a Lille qui est aussi très efficace et évidemment il y a le PSG, mais le PSG, ce que je disais tout à l'heure, je les vois très bien y briller en Ligue des Champions, se concentrer notamment sur la Ligue des Champions et justement laisser un peu la voie peut-être à cette équipe de Lyonnais que je trouve très séduisante.
Elle est très séduisante et Juninho a dit pour conclure l'année que les cadres ne devraient pas bouger cet hiver. Je pense que Lyon a compris qu'il y avait sûrement un coup à jouer et que c'était quelque chose de plausible. Alors Je donne quand même encore une bonne marge au PSG parce que j'ai le PSG. Et puis en plus, sans Tourelle, ça ne peut, j'imagine, qu'aller mieux. Mais c'est un pari qui se tient. Voilà, il y a un petit, je ne sais pas combien la cote, mais ça
ouais,
peut
être je un mettrais petit bien une petite pièce. Ouais. Ouais. T'en as d'autres, toi, mais qui sont peut-être un peu plus osés, j'allais dire presque.
Ouais, alors maintenant, on va se tourner vers ma grande passion, l'équipe de France. Je pense que, je vous le dis, alors en 2019, j'avais annoncé que Oussem Aouar serait à l'Euro 2020. À manque de peau, il n'y a pas eu d'Euro 2020. J'ai envie de faire le même pronostic pour 2021, mais ce serait presque trop facile parce qu'il a fait ses débuts en équipe de France. Ça a été un peu compliqué, il est vrai, mais globalement, son niveau de jeu à Lyon, s'il continue, je vois vraiment mal comment Didier Deschamps le laissera sur le bord de la route. Il y en a un autre que je verrais bien revenir. Alors, ça va vous paraître un peu bizarre dit comme ça parce qu'il en paraît loin. C'est Florian Thauvin. Je mettrai une pièce sur Florian Thauvin à l'Euro. Sûrement pas dans un 11 de départ, plutôt dans un rôle qu'il avait à la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce que finalement, Florian Thauvin, il est un peu à l'image de l'OM. Alors évidemment, l'image de l'OM de cette fin d'année, c'est moins bien. Mais dans les stats, il est là, tout simplement. Il fait le job. Il a ses 6 buts, il a ses 6 passes décisives. Il fait le job. Simplement, il manque un peu de brillant sur le terrain. Ça s'explique aussi parce que il revient de blessure, faut pas l'oublier. Il a eu 3 premiers mois qui étaient particuliers. C'est en plus une année qui termine par le Covid, évidemment, où il fallait se remettre dans le rythme. C'était pas le plus simple. Mais vraiment, j'ai envie de parier que Florian Thauvin sera à l'Euro. Parce que s'il fait une bonne deuxième partie de saison, un peu meilleur évidemment, surtout dans le rayonnement, dans le jeu, pas dans les stats, parce que s'il termine à 12 buts, 12 passes décisives, c'est quand même pas mal. Je pense que Didier Deschamps sera très intéressé par son profil. On le sait, Didier Deschamps aime faire ses groupes assez homogènes avec des têtes qui ne dépassent pas et des joueurs qui savent où ils en sont au niveau de leur rôle. Et pour moi, Florian Thauvin, il coche toutes ces cases-là.
Alors, faire le job, oui, sauf en Ligue des Champions et aussi dans certains grands matchs. Mais bon, ça, c'est Florian Thauvin, on le sait maintenant. Mais je suis assez d'accord avec toi, même si je trouve qu'il y a du monde d'être arrivé ces derniers mois à son poste en Ligue des Champions. Mais c'est ce que tu dis, un groupe, et notamment quand on part dans une campagne comme ça, qui dure plusieurs semaines, plusieurs plus, vraiment long sur la durée, etc., il faut des joueurs qui acceptent aussi leur rôle et d'être un peu moins dans la lumière. Thauvin a montré en 2018 qu'il était capable de le faire, même s'il a, alors, il a vieilli, etc. Est-ce que c'est toujours un rôle qui lui ira? Je pense que c'est le cas, parce que c'est ce que tu dis, il revient de blessure et tout, il sait d'où il arrive. Donc oui, c'est pas faux que ça peut être un profil que je vois bien à l'Euro.
Ouais, après qu'il est vieilli, qu'il accepte le rôle ou pas, ça c'est, j'ai envie de dire, il a pas le choix. Donc s'il veut jouer à l'Euro, ce sera ce rôle-là.
Parce oui, parce que je veux dire, le statut, ouais. Ton statut évolue aussi, et avec les années, tu as aussi envie de t'entendre d'autres choses. C'est-à-dire que un statut de super, de joker du luxe, et même de très très, c'est plus que joker de luxe, ouais. Parce qu'il a quand même peu joué. Tu l'acceptes aussi quand tu es jeune, un peu moins peut-être aussi quand tu ambitionnes autre chose.
Son dernier match en équipe de France, il est du 11 juin 2019 à Andorre, où il avait marqué. Il a 10 sélections, c'est pas beaucoup. Mais encore une fois, je pense que avec le regard que porte Deschamps sur l'Olympique de Marseille, qui est toujours un peu particulier, parce qu'il sait que même quand il n'y a pas la Ligue des Champions, enfin là il y a eu, mais ça s'est pas bien passé.
Ouais, parce qu'il aime bien la Ligue des Champions aussi.
C'est un club hyper exigeant. Et si vous arrivez à vous y imposer, parfois ça fait une bonne partie du trajet pour rejoindre l'équipe de France. On passe à ton dernier pari de l'année.
On s'éloigne de l'équipe de France, mais oui.
2021, on y reviendra, je vous rassure.
Mon dernier pari, si, évidemment, on en reparlera. Et mon dernier pari, c'est un peu osé parce que la tendance, c'est pas ça, mais c'est évidemment Lionel Messi qui restera au Barça pour moi cet été. On sait, il a voulu partir cet été, l'été dernier. Il est en fin de contrat dans quelques mois maintenant, dans 6 mois. Mais j'ai envie de croire que l'histoire de Lionel Messi avec le Barça, elle n'est pas finie, elle n'est pas terminée. Et je pense qu'une nouvelle direction va. Enfin, alors, évidemment, une nouvelle direction va arriver dans quelques semaines au Barça. Je pense que ça va faire du bien à Lionel Messi, qu'il ne va pas vouloir peut-être quitter un club qu'il aime tant et qu'il lui a tant donné sur une saison comme sur ce qui se passe actuellement. Je le vois vraiment bien rester. Et surtout, je ne vois pas qui peut l'accueillir à l'heure actuelle. Paris fait tout pour essayer de garder Neymar et Mbappé si les deux restent. Je ne vois pas Lionel Messi arriver. Manchester City, pourquoi pas, mais j'ai aussi des doutes. Donc je me dis, je pense que l'aventure de Messi au Barça, elle est loin d'être finie.
Tu es en train de me dire que le Barça va sortir le PSG?
Je suis en train de me dire non, pas du tout. Je suis en train de te dire que la direction barcelonaise va changer, et que je pense que Messi, les rancœurs de Messi à l'heure actuelle sont notamment dirigées contre l'ancienne direction qui, à mon avis, il n'en pouvait plus. Quand on lit dans la presse un peu tout ce qui se passe, de ne pas se sentir vraiment protégé, d'avoir un peu l'impression d'avoir vu son Barça descendre au fur et à mesure, chuter, etc. C'est lié à la direction, l'ancienne direction du Barça, sauf qu'elle est partie, donc je le vois bien continuer.
Je suis d'accord avec toi, et je vais annoncer aussi que Ronald Koeman sera l'entraîneur du Barça la saison prochaine. Voilà, comme ça, ça fait
ça, c'est plus osé peut-être.
Dernier pari de l'année 2021, je reviens au bleu, je vais revenir aux statistiques et je vais vous annoncer tout simplement que pour moi, Olivier Giroud dépassera Thierry Henry au classement des buteurs de l'équipe de France, qui deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et parce que là, vous allez me dire, oui, c'est un peu simple, il y a 7 buts à marquer, c'est une saison
qui est
pleine. Oui, mais il y a 19 matchs potentiellement pour l'équipe de France. Avec, si l'équipe de France va en finale de l'Euro, il y a 19 matchs. 7 buts sur 19 matchs, avec notamment une double confrontation face au Kazakhstan et les qualifs de la Coupe du Monde, je pense que ça peut le faire, même avec des matchs de prépa avant l'Euro. Ça me paraît bien faisable.
Surtout qu'il revient en forme à Chelsea, donc il n'y a pas de raison que.
Thierry Henry a 51 buts, Olivier Giroud a 44, 7 buts, mais ce serait trop facile si je n'ajoutais pas quelque chose. Je pense aussi que Griezmann dépassera Michel Platini dans la même saison, c'est-à-dire que Griezmann en est à 33 buts, Michel Platini à 41. Donc je vous annonce simplement qu'au 31 décembre 2021, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France s'appellera Olivier Giroud, que le deuxième se nommera Thierry Henry et que le troisième sera Antoine Griezmann. Et donc, par voie de conséquence, Michel Platini, le grand Michel Platini, ancien meilleur buteur historique de l'équipe de France avec ses 41 buts, ne sera même plus sur le podium. Je ne sais pas si ça me donnera un sacré coup de vieux, mais ça donnera un sacré coup d'accélérateur à l'histoire du foot français. Donc moi, je mets une grosse pièce là-dessus, donc je le répète.
Giroud 1, football.
Ouais, Giroud 1, Thierry Henry 2 et Antoine Griezmann 3. Vous voyez, j'ai du mal à m'y faire parce que tellement je suis toujours persuadé que Michel Platini est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.
Mais le football a changé, il y a plus de matchs aussi de sélection sur une saison et forcément, ça... Non, c'est pas...
Attention Glenn, tu parles comme un vieux con.
C'est vrai, c'est vrai. Bah, de plus en plus, ton influence Maxime. Alors, je suis d'accord avec toi, mais... ça fait 15 ans que je te pratique, c'est bien logique qu'à un moment ça... Ça transpire. C'est après, ça qui... je suis d'accord avec toi sur Giroud. Je mettrais moins de... J'y crois un peu moins pour Griezmann. C'est peut-être un peu plus compliqué pour lui, alors que Giroud, c'est ce que tu dis, je pense qu'il va briller, notamment contre les petites équipes. Il va les mettre, ses buts, et il va aller chercher Henry, sans souci.
Ben très bien, je crois que tout est dit. Je crois qu'on va vous laisser tranquille, fêter de bonnes fêtes de fin d'année, le réveillon, le repas. Je ne sais pas quand vous nous écouterez, mais en tout cas, on vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes de fin d'année. Faites attention à vous, évidemment, avec le Covid. Vous sortez masqué. Vous essayez de manger avec le masque aussi. Vous allez voir, c'est une expérience assez étonnante. Non, mais sans rigoler, vous faites très gaffe à vous parce qu'on a envie de vous retrouver tous l'année prochaine. L'émission reprendra, évidemment, début janvier. Glenn, merci d'avoir été avec nous. Désolé pour le concerto de Bignou.
Oui, je suis déçu, mais bon, je me le réserve, je m'entraîne encore pour l'année prochaine avec plaisir.
Partie remise.
Exactement.
Excellente fête. Vous pouvez nous retrouver donc sur le site eurosport.fr. L'émission est en intégralité. Vous nous retrouvez évidemment sur les bonnes plateformes de podcast et en vidéo si vous avez envie de voir nos bobinettes. Voilà. On vous souhaite une excellente année.
Ouais. À l'année prochaine.
Bonne fête. Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.